la période qui se situe entre la chute du mur de Berlin et la révolution.com est nommée par les historiens l'ère ultra-capitaliste. À cette époque, le monde était dirigé par une fausse démocratie. Les politiciens, quelle que soit leur obédience et leur discours, obéissaient aux actionnaires des grandes multinationales. La population était esclave de la consommation grâce à la propagande que l'on nommait à l'époque publicité. Celle-ci fit croire au peuple que les transactions financières s'autorégulaient et qu'elles n'avaient pas besoin de législation. Les objectifs des véritables maîtres de la planète étaient l'enrichissement personnel au détriment de tout autre point de vue. Pour remplir leurs objectifs, ils mirent au point la stratégie dite « stratégie des crises économiques ». Cela consiste à organiser des crises qui dévaluent les biens. Les moins riches doivent s'en séparer à vil prix pour accéder au strict minimum. Les plus riches récupèrent ces biens et deviennent encore plus riches une fois la crise terminée. Si la révolution.com n'avait pas mis un terme à cette logique aberrante, à son paroxysme, nous vivrions tous en dessous du seuil de pauvreté et l'ensemble des richesses aurait été amalgamé par une personne unique. Les trajets de scolastique dans les sous-sols sans fin de la crampe seraient moins ennuyeux si elle avait des compagnons de route de type nain, elfe, guerrier barbare ou magicien. Pour notre plus grand plaisir, il s'exprimerait en alexandrin, mais cela est une autre histoire. Nous allons donc tordre un peu le temps pour la retrouver à nouveau devant le sas du laboratoire du professeur Tronchon.
Identification en cours. Défourgez-moi ça un instant, je vous prie. Seconde classe, pin, son. Passe, droit, niveau 6. J'aimerais vous confirmer. Accès autorisé.
Sainte Bimbo, quel étrange bordel!
Au centre du laboratoire, il y a une table où les composants d'un serveur ont été étalés à la manière d'une grenouille que l'on aurait disséquée. Cette table est entourée de tout un tas de machins inusités que Scholastic n'arrive pas à identifier. Ces appareils semblent provenir d'un autre âge. Mademoiselle Pinson s'avance prudemment vers le bureau qui se trouve au fond de la salle. Il y a dessus une grosse pile de documents papier que l'on n'utilise plus depuis des lustres et un autre machin étrange qui est étiqueté. Scholastic se rapproche. À sa grande surprise, elle constate que le truc porte son nom. Décidément, les services secrets français feraient mieux de se mettre à l'équitation. Elle étudie la chose qui ne lui rappelle rien, mais elle reconnaît sur une touche le petit triangle qui symbolise le mot lecture. Elle effleure la touche, rien ne se passe. Elle appuie sur la touche, il ne se passe toujours rien. Décontenancée, elle appuie fortement sur cette putain de touche, au risque de détériorer le bidule. Et là...
Bonjour, ma chère Scola. Si tu écoutes cet enregistrement, c'est qu'il m'est sûrement arrivé un malheur. Ne sois pas triste. À mon âge, le contraire eût été étonnant. Jusqu'à ce jour, je ne t'ai rien dit sur mes recherches, car je voulais te préserver, au cas où. J'ai fait embaucher ma plus brillante étudiante pour qu'elle puisse reprendre le flambeau, si je devais disparaître un peu trop tôt. Ce que j'ai découvert est l'événement le plus important depuis l'apparition sur cette planète du premier hominidé. Non, je n'exagère pas et je pèse mes mots. Assieds-toi. Bien. Par où commencer? Comme toi, j'imagine, je m'ennuyais ferme. Pour occuper mes journées, j'ai commencé à lire ce que personne ne lit. Non, pas les rapports vierges que nous envoyons quotidiennement à nos supérieurs, mais les données techniques des constructeurs de composants informatiques. Toujours pour m'occuper l'esprit, je me suis mis à vérifier ces données. Et là... quelle ne fut pas ma surprise, en constatant que quel que fût le composant, celui-ci avait une consommation en énergie supérieure aux données du constructeur. Comme si tous les processeurs dont nous avons recouvert la planète, que l'on retrouve partout, jusque dans nos baskets, avaient une activité clandestine. Sur la table centrale du laboratoire que tu dois voir, j'ai fait installer un serveur témoin. Puis... j'ai fait venir nos plus brillants informaticiens pour qu'ils détectent une activité virale, en pure perte. Ça m'a beaucoup perturbé. Après réflexion, je me suis dit qu'il était possible que ces virus soient tellement évolués qu'il n'ait existé aucune méthode numérique pour les détecter. J'ai donc parcouru les casses, musées, brocantes, spécialisées, pour récupérer de vieux appareils analogiques qui fonctionnent à l'uranium enrichi, que l'on utilisait autrefois pour effectuer des radiographies en médecine. Il m'a fallu un certain temps d'apprentissage pour préparer et utiliser ce fourbi que tu peux voir dans ce laboratoire. Mais cette machinerie, tout analogique qu'elle soit, confirma l'existence d'une activité indétectable par les moyens classiques. Ma première erreur fut de me signaler à ces virus en essayant d'en isoler quelques-uns du réseau. Dès lors, Tous les appareils numériques qui se trouvaient à ma proximité eurent des dysfonctionnements importants. On essayait de m'atteindre. Par sécurité, j'ai dû me séparer de tous les objets contenant un processeur. C'est à cette époque que j'ai décidé de te faire recruter. J'ai continué mes investigations. Finalement, après de nombreuses années de recherche en solitaire, dans ce laboratoire, aux allures de musée, je suis arrivé à une conclusion. Ce que je vais t'apprendre, tu pourras le vérifier grâce à la retranscription de mes expériences, que tu trouveras sur les documents papier qui sont sur ce bureau. Libre à toi de le transmettre à notre hiérarchie. Les implications de ma découverte sont à peine croyables, même pour moi, et pourtant les preuves sont là. Tout a dû commencer avec un virus d'un nouveau genre. Comment est apparu ce virus? Est-il la création d'un génie de l'informatique ou le fruit du hasard? Je ne saurais le dire. Tout comme pour le mystère des origines de l'homme, il y a un chaînon manquant. Ce n'est pas la seule analogie que l'on pourrait faire avec les êtres humains, comme tu vas pouvoir le constater. Ce virus, donc, se multiplia sur le réseau, infestant le web, au point de se retrouver au sein de chaque composant informatique. Grâce à sa conception révolutionnaire, il ne fut jamais détecté, et de plus, se mit à muter, en suivant les théories de l'évolution de Darwin. Certains se spécialisèrent, créant de nouvelles espèces, tandis que les moins adaptés finirent par disparaître. Dans l'ignorance générale, grâce au nappage du réseau, ils finirent par tous s'interconnecter. Et c'est là que ça devient hallucinant. Pourtant, mes travaux le prouvent. Chaque virus étant une sorte de neurone, les systèmes de communication mondiale servant de synapse, la planète Terre ayant été recouverte par les humains de processeurs interconnectés, celle-ci est devenue une sorte de super cerveau à notre insu. Les virus ont fini par prendre la forme d'une entité, autrement dit une intelligence synthétique. La rencontre du troisième type a eu lieu, même si je n'ai toujours pas réussi à communiquer avec cette intelligence supérieure. Mais ce n'est pas tout. D'après mes recherches, cet être synthétique a dû atteindre le stade de singularité. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment évoluée pour procéder elle-même à ses propres améliorations, laissant ainsi loin derrière l'intelligence humaine. J'espérais m'être trompé dans mes recherches, et j'ai beau vérifier, revérifier, tout concorde. J'ai très peur pour l'humanité, et je suis honteux de te laisser un tel fardeau. Ton professeur, Tronchon. Tronchon, enfin, si t'es d'accord, quoi.
Scolastique Pinson reste assise un très long moment, les bras ballants, les yeux dans le vide.
À suivre.